tontos.
Vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. C'est enfin le retour de l'émission Check Me Load. Salut à tous, j'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui en direct, donc eh bien pour de nouvelles aventures en métal. Parce que faut bien l'avouer que la dernière fois où je vous avais dit au revoir, c'était mi-mars et j'étais bien loin d'imaginer que la semaine suivante, eh bien je ne serais pas de retour au micro pour la suite des aventures de Check Me Load. Ça a été un gros passage à vide. Il y a eu plein de sorties d'albums durant ce long laps de temps. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'offrir une première séance de rattrapage et je vais vous proposer une sélection de quelques-uns de ces très bons albums qui sont parus donc entre le mois de mars et maintenant début juin. Ça fait tout bizarre hein, d'avoir eu cette longue période. Alors vous allez me dire, en général en été, il n'y a pas d'émission Check Me Load sur Bac FM, effectivement, mais là on n'était pas en été, donc ça n'avait pas lieu d'être et je suis vraiment très 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 enchantée d'être avec vous aujourd'hui, je le rappelle, pour ce premier direct d'après confinement. Alors là, je pense qu'on respecte bien les distances entre nous pour rien risquer, il n'y a pas de souci, donc on va pouvoir profiter un maximum. Du coup, comme il y a eu cette longue période sans émission, je vais avoir beaucoup de choses à vous présenter et j'en profite pour vous l'annoncer maintenant. Il est possible que cet été vous ayez quelques petites summer sessions de Check Me Load qui permettront d'arriver un peu à vous présenter toutes ces belles sorties qui sont arrivées durant toutes ces semaines sans émission. Allez, il est temps de relancer les hostilités donc de 7 heures de métal rien que pour vous et on va commencer par du très très lourd puisque le 10 avril sortait enfin le nouvel album de Nightwish, un album qui s'appelle Human to Nature. Pour le coup, c'est pas fait exprès mais... le titre évoque assez bien les événements de ce moment, hein, puisque l'humain contre la nature, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. La nature s'est un peu révoltée contre nous. Donc, un disque sorti le 10 avril. Avant de vous en dire un petit peu plus sur cet excellent album, je vais vous parler un petit peu de Nightwish. Il y a peut-être des auditeurs qui connaissent pas encore tout à fait bien ce groupe. C'est un groupe finlandais hein, qui nous vient de la ville de Kiti, qui existe depuis 1996. Il a été créé sous l'impulsion du clavier Tuomas Holopainen, qui est également un compositeur hors pair. Et puis le groupe va connaître la gloire durant la première moitié des années 2000, en partie grâce à la charismatique chanteuse Tarja Turunen, qui a une particularité d'être une chanteuse de formation lyrique. Alors, malgré son immense talent, Tarja, elle va être limogée en 2005. Elle va d'abord être remplacée par la Suédoise Annette Olsson. Et puis ensuite, c'est la Néerlandaise Floor Jensen qui va récupérer le micro, qui le tient depuis 2012. En ce qui concerne le reste de son line-up, c'est un groupe qui se compose du guitariste Empu Vuorinen, du bassiste Marko Hietala, du batteur Kai Hato, sans oublier Troy Donocli, qui chante tout comme le bassiste d'ailleurs, mais il ne fait pas que ça, puisqu'il est également à la cornemuse, à la flûte irlandaise, et puis joue aussi un petit peu de guitare. Alors le style de Nightwish, c'est du métal symphonique, et c'est ce qu'on appelle très vulgairement du métal symphonique à chanteuse. Comprenez par là qu'on a une voix féminine, en général lyrique, hein, sur ce genre de groupe. C'est un peu Nightwish d'ailleurs qui l'a impulsé, il y en a eu beaucoup qui ont suivi depuis. Nightwish reste quand même actuellement parmi les meilleurs, même s'il y a quelques poids lourds qui commencent à lui coller au train. Alors, le premier album de Nightwish, c'est Angels Fall First, c'est en 97. Comme je l'ai déjà souligné, le succès du groupe, il va être grandissant à partir des années 2000, avec une consécration en 2004 avec un album qui s'appelle Once. Alors, en presque 25 ans, les Finlandais, ils ont sorti 9 albums studio. Il y en a eu 5 avec la première chanteuse, avec Tarja Turunen. Il y en a eu 2 avec Annette Olsson. Et puis, il y en a eu 2 également, si on compte celui-ci, avec Floor Jensen. Alors, les deux moins convaincants, selon moi, étant ceux de la période Olsson, hein. Donc, si vous désirez découvrir la discographie de Nightwish, moi, je vous conseille d'éviter de commencer par ces disques-là. Et sincèrement, à votre place, je choisirais plutôt, bah, par exemple, Oceanborn qui est paru en 98, Wishmaster qui est paru en 2000, Century Child qui est paru en 2002. One 5 qui était l'album vraiment qui a révélé le groupe de 2004. Et puis bah, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est sauter directement au nouvel album, A Human to Nature, qui est le nouveau chef-d'œuvre de la prestigieuse formation, donc paru mi-avril, 5 ans hein, après Endless Forms Most Beautiful, premier album sur lequel apparaissait Floor Jensen, qui était ma foi tout à fait honorable, mais qui était quand même pas transcendant, faut bien l'avouer. Alors, bien loin de la maestria de ce nouvel opus, hein, même parce que là, on retrouve le Nightwish grandiose du début des années 2000. Un Nightwish qui s'affranchit ici des codes, qui sort de sa zone de confort avec des compos qui sont variées, inspirées, surprenantes, qui sont interprétées aussi plus que brillamment par des musiciens dont le talent est plus approuvé. Mais la prestation la plus notable, c'est la prestation magistrale de Floor Jensen, qui est absolument incroyable sur ce nouvel album. Alors, on connaissait bien ses capacités vocales, qui sont également aussi assez exceptionnelles, mais sur le disque précédent, Floor, elle reprenait quand même un lourd fardeau hein, de reprendre ce micro. Annette Olsson avait pas été formidable pour succéder à Tarja Turunen, et donc voilà, il y avait un gros challenge quand même, donc elle était pas encore tout à fait à son aise. Maintenant, c'est chose faite, on sent que Floor Jensen, elle fait partie intégrante de Nightwish, qu'elle a pris ses marques, et donc Human to Nature, c'est une pure réussite. Je pense que ce nouvel album, il fera date hein, quand même dans la discographie des Finlandais. En voici tout de suite un extrait avec un morceau qui s'appelle Noise. C'est pour vous, c'est en direct dans Check Me Load sur Back FM. Nightwish à l'instant avec le titre Noise, un extrait du nouvel album qui s'appelle Human to Nature, album qui est paru le 10 avril, un très très bon disque que ce 9e opus de Nightwish, je ne peux que vous le conseiller. Bah, vous avez pu l'entendre avec ce Noise qui est à la fois efficace, enthousiasmant, enfin du grand Nightwish quoi, tout simplement, on va pas aller chercher plus loin. En tout cas, c'est disponible, donc vous pouvez y aller. Autre grosse sortie parmi celles qui m'ont marqué durant ce confinement, il y a eu le nouvel album, alors plus récent, lui, de Paradise Lost, puisqu'il est arrivé il y a 15 jours, c'était le 15 mai, on était déjà déconfinés d'ailleurs. Et ce nouvel album, il s'appelle Obsidian, et là encore, on a affaire à une pépite. Donc, Paradise Lost, c'est un groupe originaire de Halifax, en Grande-Bretagne. C'est un groupe pareil, hein, qui a une longue carrière, plus longue que celle de Nightwish, puisque le groupe a été créé en 1980. Et une des particularités de Paradise Lost, eh bien, c'est sa remarquable stabilité niveau line-up, puisque depuis ses débuts, le groupe se compose du duo qui est formé par le chanteur Nick Holmes et le guitariste Greg McIntosh. Oh là là, la reprise est compliquée. Donc eux, ce sont les deux principaux compositeurs. Et puis, il y a aussi le guitariste Aaron Hady et le bassiste Steve Edmondson. En fait, il y a que le poste de batteur qui a connu plusieurs bouleversements, et à ce jour, eh bien, il est occupé par le jeune finlandais Valtteri Vaarinen. Alors, Paradise Lost, c'est un mélange de death, de doom gothique, du moins au début, puisque après ça va quand même un petit peu évoluer. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'avec Anathema et My Dying Bride, Paradise Lost forme en quelque sorte la triforce du mouvement doom death gothique britannique, dont ils sont les trois fers de lance, hein, tout simplement. Aujourd'hui, la discographie du groupe, elle est composée de 16 albums studio. D'ailleurs, une discographie qui compte quelques chefs-d'œuvre, hein, mais leur plus gros succès demeure quand même l'album Draconian Time, qui est paru en 95, qui s'est écoulé à plus de 500 000 exemplaires à travers le monde. D'ailleurs, c'est un album, c'est marrant, parce que je l'ai réécouté justement pendant le confinement. Alors, il faut savoir que si à ses débuts Paradise Lost s'inspire de formations comme Black Sabbath, Creator, Celtic Frost, Candlemass, Death, Morbid Angel, et ben à partir de son 6e album qui s'appelle One Second, qui paraît en 97, le groupe va évoluer dans un style quand même très synth-pop, inspiré de la New Wave des années 80, avec des sonorités parfois très proches de Depeche Mode, par exemple. Et puis finalement, Paradise Lost va revenir à cet univers metal gothique à partir du milieu des années 2000, et il va même faire un retour à ses racines doom death à partir de 2015 avec l'album The Plague Within, et puis également avec le suivant, avec Medusa, qui était paru en 2017, qui était très très bon Medusa. Et donc voilà, ça c'était jusqu'à présent les deux dernières productions du combo. Donc ces racines doom death, et ben on va les retrouver encore plus vives et plus sombres que jamais sur Obsidian, hein, le nouvel album du groupe, qui arrive 25 ans après son mythique Draconian Time. Et c'est marrant parce qu'on en retrouve quelques résurgences qui sont extrêmement plaisantes dans le nouvel album. Un nouvel album à la fois puissant, profond, où règne le mystère, la mélancolie, où cohabitent mélodies aériennes et riffs lourds et brutaux. Avec Obsidian, Paradise Lost va nous entraîner dans un univers gothique fantasmagorique, où c'est le chaos, l'obscurité qui règne en maître. Alors l'ensemble est quand même assez majestueux, c'est un album qui est intemporel. Là encore, hein, je pense que cette 16e production des Britanniques, c'est une véritable pépite qui pourra trôner fièrement parmi les plus belles œuvres de leur discographie. En voici la preuve en musique avec le sublime Fall From Grace, et quand je vous parlais de résurgence de Draconian Time, eh ben, vous allez en entendre quelques-unes dans ce morceau. Paradise Lost sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load qui fait son grand retour aujourd'hui pour vous déconfiner les oreilles. Paradise Lost, un extrait donc de l'album Obsidian paru le 15 mai et on vient d'écouter le sublime Fall From Grace. Très très bon titre d'un très très bon album que je ne peux que vous conseiller d'aller écouter. Moi je trouve que Paradise Lost, pour un groupe qui a 32 ans de carrière, et ils ont encore quelques leçons à nous donner. Et en parlant de groupe qui a une longue carrière, en voici un qui est encore plus ancien puisque lui il est du début des années 80. Il s'agit du groupe Testament qui a sorti le 3 avril et bien également un nouvel album. Un album qui s'appelle Titans of Creation. Alors Testament, là on quitte l'Angleterre, on part directement la Californie, puisque le groupe est originaire de Berkeley, c'est dans la région de San Francisco, qui est quand même assez connu pour être un des berceaux du thrash metal. Donc le groupe, il est créé en 1983, sous l'impulsion notamment des guitaristes Eric Peterson et Alex Skolnick, ainsi que du chanteur Steve Souza, mais il va pas rester bien longtemps, il va vite laisser le micro à Chuck Billy, je crois que c'est 3 ans plus tard, parce que en fait, Steve Souza, il va aller rejoindre une autre formation qui s'appelle Exodus, et qui est un autre fleuron de la scène trash californienne. Alors, même si Testament ne figure pas dans le fameux Big Four of Trash qui est composé de Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax, il figure pas moins parmi les formations pionnières et incontournables de la scène trash internationale, ça c'est absolument incontestable. Et sa première pierre à l'édifice du trash, eh bien Testament va la poser en 87 avec un premier album qui s'appelle The Legacy, qui, malgré une production quand même très underground, va connaître un large succès. D'ailleurs, pour pas mal de fans, Legacy est considéré comme étant le meilleur disque du combo, qui va sortir un deuxième album d'ailleurs en 88, qui est dans la même veine, qui s'intitule The New Order, et qui va connaître le point d'orgue de sa carrière avec la sortie en 89 de Practice What You Preach, qui demeure à ce jour son plus gros succès commercial. Alors, même s'il est vrai que la réputation de Testament, elle est loin d'être aussi gigantesque que Metallica ou Slayer, ça n'empêche pas que le groupe a depuis 1987 et le premier album, connu une carrière plutôt pérenne. Alors, il y a quand même eu une petite période de hiatus entre 2000 et 2008, mais ça a été un peu forcé, parce que pendant cette période-là, il y a deux membres du groupe qui vont faire face à un cancer, le guitariste James Murphy et puis le chanteur Chuck Billy. Alors fort heureusement, tous les deux sont guéris. Et depuis, Testament est revenu aux affaires, puisque à ce jour, il a quand même une discographie composée de 13 albums studio, dont l'excellent Brotherhood of the Snakes, qui était paru en 2016, qui était jusqu'à cette année la dernière production en date des Californiens. Car oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre légendaire combo a fait un retour fracassant donc au début du mois d'avril, avec une nouvelle production, Titans of Creation, qui est, on va pas laisser planer le mystère plus longtemps, une nouvelle prouesse, tant par l'efficacité et l'intelligence des compositions que par leur exécution qui est percutante, précise, et qui nous montre à quel point le line-up actuel de Testament est cohérent, et qui nous montre aussi que nos vieux briscards du trash, ils sont encore dans la place et ils ont encore de quoi mettre une bonne dérouillée aux genoux. Parce que oui, presque 40 ans après la naissance du trash, c'est finalement ceux qui l'ont forgé, qui continuent souvent à la modeler. Testament fait partie de ces formations, et Titans of Creation c'en est une nouvelle preuve. On en écoute tout de suite un extrait avec un morceau qui s'appelle Night of the Wish. Alors vous allez voir, c'est un morceau qu'on peut considérer presque un peu original parmi tous les titres qu'a pu écrire Testament. Withdraw! Behold the face of terror! Open the gates of hell! Night of the Witch du groupe Testament à l'instant sur Bac FM dans l'émission Check Me Out qui fait son retour sur les ondes aujourd'hui en direct. Testament donc groupe phare de la scène trash des années 80, Testament qui est encore là, qui est encore bien vivant et qui nous en met encore plein les oreilles avec cet excellent nouvel album Titans of Creation. Je le répète une dernière fois, il est disponible depuis le 3 avril ce nouvel album. Alors s'il y en a parmi vous qui ont trouvé ça un peu trop violent pour leurs petites oreilles, là il va falloir changer de station parce que on va monter d'un bon cran avec une de nos gloires françaises du moment, notre groupe phénomène de Brutal Death. Je veux bien sûr parler de Benighted qui a sorti le 10 avril un nouvel album intitulé Obscene Repriest. Donc Benighted, groupe de Saint-Étienne fondé en 98, il a été créé sous l'impulsion notamment du chanteur Julien Truchant qui est le seul membre historique qui est encore présent actuellement. Sinon pour ce qui est du line-up d'aujourd'hui, Benighted se compose des guitaristes Fabien Desgardins et Emmanuel Dalle, du bassiste Pierre Arnoux et du batteur Kevin Paradis qui a succédé en 2017 à Kevin Follet. Enfin là je fais un raccourci parce qu'il y a eu un ou deux autres batteurs qui sont passés entre temps, mais vraiment voilà, le changement notable c'est entre Kevin Follet et Kevin Paradis. Il faut s'appeler Kevin pour être batteur dans Benighted apparemment. Alors si à ses débuts la musique de Benighted c'est un mélange de black et de death qui est principalement influencé par Cannibal Corpse et puis par Marduk, eh bien ensuite on va évoluer vers un son brutal deathcore très marqué, hein, un style que les Stéphanois revendiquent d'ailleurs tout à fait. Et en ce qui concerne les thèmes de leurs morceaux, eh bien bien souvent ça traite de pathologies psychologiques et psychiatriques, des thèmes que le chanteur du combo puisse tout simplement dans sa vie professionnelle puisqu'il est infirmier psychiatrique. Donc la discographie de Benighted maintenant. Alors ils vont sortir un premier album autoproduit en 2000 et puis ils vont ensuite enchaîner avec deux albums. Il va y avoir Psychose en 2002 et puis Insencephalic en 2004. Deux productions qui se caractérisent notamment par une approche franche et puissante qui va séduire à la fois les chroniqueurs et les amateurs du genre. Ensuite il y aura les albums Identiseek en 2006, il y aura Icon en 2007, et puis Benighted va rejoindre le label Season of Mist, sur lequel va sortir en 2011 un concept album qui s'appelle Asylum Cave, qui va être inspiré de la sordide affaire Fritzl. Je sais pas si vous vous souvenez de Fritzl qui avait enfermé une jeune femme pendant des années dans sa cave. Voilà, c'est un album qui avait fait forte impression, mais ce sera pas l'album de la consécration pour Benighted, puisqu'il va arriver 3 ans plus tard, en 2014, avec l'excellent Carnivore Sublime, qui est un petit bijou de brutalité aux ambiances gore et dérangeantes, à pas mettre entre toutes les oreilles, et entre toutes les oreilles, parce que ça peut, même les âmes sensibles, hein, faut quand même s'abstenir, c'est très très violent, très très malaisant. Et ce conseil d'ailleurs il vaut également pour l'album suivant, hein, qui s'appelle Necrobreed, qui est sorti en 2017, alors là qui nous entraîne dans les entrailles du glauque et du malsain encore une fois, avec un mec qui se coud des cadavres d'animaux sur le ventre pour pallier à son désir d'enfanter. Je sais pas si vous voyez un peu le degré de quel point ça peut être tordu, quoi. Alors c'est un album qui poussait encore un cran plus haut la démesure et la brutalité, et c'est même un album qui a amené pas mal de chroniqueurs et de fans, hein, à se demander à quoi allait ressembler l'album suivant si cette surenchère dans la bestialité se poursuivait. Et ben la réponse elle est dans Obscene Repriest, le nouvel album, hein, donc des Stéphanois, qui est paru en avril. Alors c'est un album qui effectivement tient toutes ses promesses en termes de violence et d'agressivité, mais qui nous fait quand même la surprise, eh bien, de justement ne pas tomber dans ce jeu de je pousse le bouchon encore un petit peu plus loin, puisque là le groupe a décidé de sortir un peu de ses sentiers battus et a décidé de mêler en fait à son brutal core habituel des influences hardcore qui sont tout à fait nouvelles et qui lui sied à merveille. Alors sans rien perdre donc de sa barbarie légendaire, hein, Benighted s'œuvre avec Obscene Repriest un renouveau avec des titres qui proposent des angles d'attaque un petit peu différents, et bah franchement ça le fait grave, quoi. On peut noter aussi au passage un artwork qui va ravir les amateurs du genre, hein. Ceux qui aiment notamment les pochettes de Cannibal Corpse devraient y trouver leur compte, et puis bien sûr la présence d'invités de marque, hein, parce que c'est un petit peu la tradition chez Benighted. Alors là il y en a deux, le premier c'est l'allemand Carsten Jagger qui est le chanteur du groupe Disbelief, et puis le second c'est une grosse pointure, c'est l'américain Jamie Jasta qui est le chanteur de Hatebreed. une des légendes de la scène hardcore américaine. Alors pour conclure, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut même affirmer, c'est qu'avec Obscene Repriest, bah, Benighted poursuit son ascension vers les sommets du brutalcore. Encore une fois, il faut dire aux âmes et aux oreilles sensibles de s'abstenir. Si c'est votre cas, changez de station ou enlevez le son pendant quelques minutes. Le morceau, il dure 3 minutes 21. Ça s'appelle Nails. D'ailleurs, si vous avez plus de 18 ans, bah, je vous conseille d'aller voir le clip parce que lui aussi, il est pas piqué des verres. Tout de suite, voici Benighted. Voilà, vous pouvez ramener les enfants, c'était Benighted à l'instant avec un extrait de l'album Obscene Repriest qui est sorti le 10 avril et on vient d'écouter le titre Nails. Voilà pour nos phénomènes du brutalcore made in Saint-Etienne, on en est très fiers et eux ils ont vraiment la carrure pour faire une carrière internationale. Je pense sincèrement que sur la scène internationale en ce qui concerne le Brutal Death, Benighted fait partie actuellement des meilleurs. On va se calmer un petit peu, même si on va quand même rester dans quelque chose d'assez agressif, mais voilà, rien comparé à Benighted. Et on va s'intéresser maintenant à un groupe américain qui nous vient de Floride. Ce groupe, c'est Trivium, et eux, le 24 avril, eh bien, ils ont sorti l'album What the Dead Men Say. Alors, donc, Trivium, une histoire qui commence à Orlando en 2000. Comme beaucoup de groupes, ils vont voir le jour autour de camarades de lycée. Alors, de cette époque, il n'y a plus que le chanteur, aujourd'hui encore présent, chanteur-guitariste qui s'appelle Matt Fifi. Et quant au reste du line-up, eh bien, il se compose du guitariste Cory Beaulieu, qui arrive en 2003, du bassiste Paolo Gregoletto, qui arrive en 2004, et puis du batteur Alex Hernandez Bent, qui est derrière les fûts depuis 2017. Pour ce qui est du style du groupe, Trivium, c'est un mélange de metalcore, de death mélodique et de thrash metal, avec des influences très très variées, puisque leurs influences, elles vont de Metallica à Dream Theater, en passant par Iron Maiden, par exemple, hein, et là, pareil, on fait un gros raccourci, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, Trivium va sortir son premier album en 2003, ça s'appelle Ember to Inferno, mais c'est avec Ascendancy en 2005 que le combo, qu'on compare alors beaucoup à Metallica, va commencer réellement à se faire connaître. La consécration, elle est plus très loin, puisqu'elle va arriver l'année suivante avec The Crusade, qui va devenir le premier gros succès commercial international de Trivium, dont la discographie compte désormais 9 albums, pour les albums studio, et c'est en règle générale des albums qui sont plutôt réussis. Alors si je devais quand même vous en conseiller quelques-uns, bah, je choisirais pour le coup Ascendancy et The Crusade, que j'ai évoqué il y a quelques instants, et puis je choisirais aussi deux œuvres plus récentes du combo. Je prendrais Silence in the Snow, qui est paru en 2015, et puis The Sin and the Sentence, qui est paru en 2017, qui voyait Trivium évoluer vers des sonorités plus heavy, et c'est d'ailleurs dans cette même lignée hein, que s'inscrit What the Dead Men Say, leur 9e album qui est paru fin avril, qui donc à l'occasion des 20 ans de carrière du groupe, eh bien, nous offre une production puissante, inspirée, aboutie, qui nous prouve que non seulement Trivium bah, a rien perdu de sa hargne, mais aussi qu'il est loin d'avoir dévoilé l'ensemble de ses nombreuses facettes, puisqu'en effet, What the Dead Men Say eh bien, nous envoie du riff propre, efficace. Il y a aussi de très beaux passages techniques, il y a quelques plans virtuoses qui vont faire le bonheur des amateurs de thrash, de heavy, et puis aussi de metal prog. Et puis bah, le tout, il est quand même très 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 bien porté par la voix tantôt rageuse, tantôt plaintive d'un Matt Heafy qui est déchaîné et qui nous dépeint à merveille la noirceur d'un monde qui court droit à la catastrophe. Voici donc sans plus tarder un extrait de l'album avec le morceau titre, puisqu'on va écouter What the Dead Men Say. Voici Trivium. vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. C'est le retour de Check Me Load aujourd'hui en direct et vous venez d'écouter Trivium, un morceau qui s'appelle What the Dead Man Say, extrait de l'album du même nom qui est paru fin avril. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre une dernière nouveauté issue de cette sélection et puis on continuera bien évidemment la semaine prochaine. Je pense que cette fois-ci, on va pas être confiné et qu'il y aura pas de soucis. Je serai normalement bien derrière ce micro vendredi prochain, du moins je l'espère de tout mon cœur. Mais on n'en est pas encore là puisque on a encore une nouveauté à découvrir et puis ensuite on conclura l'émission avec la traditionnelle rubrique Sortez Cover qui va permettre de terminer un petit peu plus en douceur que ce que vous avez pu entendre tout au long de ce retour de Check Me Load. Donc dernière nouveauté pour cette petite sélection du jour avec Asking Alexandria qui a sorti le 15 mai Like a House on Fire. Alors Asking Alexandria, c'est, je vous avoue que c'est pas un groupe que j'écouterai à longueur de journée, mais quand même l'album a de quoi séduire, mais aussi de quoi donner un peu d'allergie à d'autres. On va expliquer un petit peu tout ça. Avant, je vais quand même vous rappeler un petit peu l'histoire du groupe. Alors, officiellement, Asking Alexandria, c'est un groupe qui voit le jour en 2008 à York, en Angleterre, mais en réalité, c'est à Dubaï que le groupe trouve ses origines, quelques temps plus tôt, sous l'impulsion du guitariste Ben Bruce, puisque à cette époque-là, il vit aux Émirats Arabes Unis. Et donc, de cette première mouture qu'il va fonder là-bas, va naître un premier album qui va sortir très peu de temps, mais en fait ça va arriver à peu près au même moment où Ben Bruce va être de retour en Grande-Bretagne et il va choisir de s'entourer tout simplement de nouveaux musiciens pour refonder Asking Alexandria, mais en version 2.0. C'est en fait le Asking Alexandria qu'on connaît dans les grandes lignes aujourd'hui, puisque le combo a connu peu de changements niveau line-up. Il se compose donc, comme je disais, de Ben Bruce et aux guitares, mais il est pas tout seul, puisqu'il y a également Cameron Liddell, seconde guitare. À la basse, on a Sam Bately, et puis on a également James Castles à la batterie, n'importe quoi, c'est un nouvel instrument, mélange de basse et de batterie, la batterie. Non, il est bien à la batterie, James Castles. Et puis, un dernier membre, c'est Danny Worsnop, qui est au chant. Alors, lui, il est au chant depuis le début, mais pendant un court laps de temps, il avait laissé son micro à Dennis Stoff. Une période qui a été courte, mais que la plupart des fans ont très envie d'oublier. Donc, le style de Asking Alexandria, c'est du metalcore, avec des sonorités heavy et électro. Alors, vous l'aurez deviné, le groupe a des influences qui sont extrêmement variées, puisque ça va de formation hard rock et heavy des années 80-90 comme Aerosmith, les Guns, Metallica, Motley Crue, Def Leppard, jusqu'à la scène metalcore actuelle avec des formations comme Bring Me The Horizon, dont je trouve que le groupe se rapproche de plus en plus, ou encore The Devil Wears Prada, en passant par le nu metal de Papa Roach ou de Slipknot. Voilà, ça c'est pour vous balayer les grandes lignes de ce qui fait l'essence d'Asking Alexandria. Maintenant, parlons de discographie. Alors, si on met de côté l'album que Ben Bruce a sorti quand il était à Dubaï, elle se compose à ce jour de 6 albums studio, un live et 2 EP, dont un consacré à des reprises. Et donc, depuis quelques temps, le combo jouit d'un succès commercial et d'une popularité qui sont extrêmement importants, notamment aux États-Unis, puisqu'il y a quand même 3 des albums qui se sont hissés dans le top 10 des charts. C'est pas rien quand même aux États-Unis. Qu'on soit bien clair là-dessus. Alors ces 3 albums là, c'est Reckless and Relentless en 2011, il y a eu aussi From Death to Destiny en 2013 et puis The Black en 2016, alors qu'il est très très controversé ce disque, mais bon voilà, il y a eu quand même un très gros succès derrière. Et puis en France aussi d'ailleurs, la notoriété de Asking Alexandria, elle connaît depuis quelques temps une ampleur considérable chez les amateurs de metalcore, et on a vu l'occasion de le vérifier avec la sortie en 2017 de l'album éponyme des Britanniques, une notoriété qui devrait encore prendre de l'ampleur, encore s'intensifier avec Like House on Fire qui est paru il y a 15 jours, même si comme à chaque fois, c'est un album qui devrait quand même provoquer autant d'amour que de haine, parce que un peu comme Bring Me The Horizon d'ailleurs, Asking Alexandria c'est un groupe qui est assez clivant, je trouve. On l'accuse d'un côté de trop vouloir expérimenter, on l'accuse de l'autre de trop flirter avec le mainstream avec des titres taillés pour les radios, Et c'est vrai que si je dois reconnaître la qualité de ce nouvel album, eh ben j'avoue aussi que je trouve qu'il y a quelques morceaux qui sont quand même un peu faciles. Il y a quelques morceaux, sincèrement, je trouve qu'ils sont un peu formatés pour émouvoir des adolescentes en fleurs. Voilà. Après, ça, c'est mon avis personnel. C'est pas forcément la vérité, hein. C'est mon ressenti. Alors, après, il y a aussi des compos plus agressives, plus rugueuses, que je trouve d'ailleurs bien plus intéressantes. Et c'est d'ailleurs une de celles-ci qu'on va écouter dans quelques instants. Donc, c'est pour ça, voilà. C'était quand même un album que j'avais envie de vous présenter parce que... voilà, il y a du travail derrière, il y a du talent, après on aime ou on n'aime pas. Alors pour vous en dire un tout petit peu plus sur cet album qui est Like House on Fire, il a été produit par Matt Good, qui avait travaillé sur l'album précédent, qui a aussi travaillé avec des groupes de nu metal. Les sessions de cet album, elles ont été enregistrées durant toute l'année 2019, entre une tournée avec Shinedown et quelques concerts avec Papa Roach, des sessions intermittentes donc qui ont, selon les dires de Ben Bruce, permis au groupe de puiser dans l'énergie de la tournée pour donner naissance aux 15 morceaux de métal, de rock massif qui sont vraiment taillés pour remplir et mettre le feu au stade du monde entier. Alors, que vous soyez client ou non de ce metalcore aux accents électro, et ben voilà, maintenant faites-vous votre avis. En tout cas, voilà, l'album était quand même assez notable pour figurer dans cette sélection. On va en écouter un extrait tout de suite avec un morceau qui s'appelle The Violence, qui avait été révélé d'ailleurs assez longtemps avant la sortie de l'album et qui est accompagné d'un clip qui lui est vraiment très très réussi. Je vous le conseille, hein, le clip de The Violence. Voici tout de suite Asking Alexandria sur Back FM.
What you asked for. I'm on the edge and I'm not alone. Remember, this is what you asked for. All you wanted was violence. So plant your seeds and divide us. You want the worst that's inside us. We're praying the fire. Yeah.
Asking Alexandria à l'instant dans l'émission Check Me Load sur Back FM en direct des studios. Un extrait de l'album Like House on Fire. On vient d'écouter le titre The Violence. L'album est paru donc le 15 mai. Il est tout frais, il est tout chaud et vous pouvez vous le procurez si ça vous fait envie, si vous aimez ce mélange de metalcore avec ses sonorités un peu électro. Un des bons titres de l'album, après il y en a d'autres que j'aime moins, voilà, maintenant à vous de vous faire votre propre opinion. Eh bien écoutez, on arrive déjà à la fin de cette émission retour, rendez-vous j'espère la semaine prochaine pour avoir une nouvelle sélection de ce qui s'est passé ces dernières semaines, parce qu'il y a eu de très nombreuses choses et de très bonnes choses, donc voilà, là il a fallu faire une première sélection, je vous avoue que ça a été assez compliqué, donc j'ai hâte de vous proposer la suite, mais pour l'heure, il est temps de passer à notre rubrique consacrée aux reprises, la rubrique Sortez Cover. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté le nouvel album de Nightwish, donc évidemment j'ai évoqué un petit peu l'historique du groupe et le rôle qu'a tenu la frontwoman Tara Turunen, qui a été la première chanteuse du groupe et qui a sans aucun doute largement contribué à l'immense succès qu'a connu la formation après. Hein. Du coup, j'ai eu envie de la mettre à l'honneur dans cette rubrique Sortez Cover de ce jour avec une reprise du célèbre morceau Poison d'Alice Cooper, que donc cette reprise j'ai eu l'occasion de l'écouter à plusieurs fois durant le confinement et je me suis dit tiens que j'avais envie de la partager avec vous. Alors cette version signée par Tara Turunen, elle date de 2007, elle figure sur son deuxième album solo qui s'intitulait My Winter Storms, et comme vous vous en doutez, eh bien la soprano finlandaise, elle revisite la ballade hard rock d'Alice Cooper à la sauce rock metal symphonique avec un chant lyrique qui est de toute beauté. Vous allez entendre ça d'ici quelques instants. Je vais aussi vous dire quelques mots sur la chanson originale, hein, celle qui a été interprétée par Alice Cooper. Alors, elle est parue en 45 tours le 7 juillet 1989, donc une chanson qui a quasiment 31 ans. Ça va être le premier single extrait d'un mémorable album qui s'appelle Trash, qui va apparaître une quinzaine de jours plus tard. Donc Poison, c'est une chanson qui s'inscrit dans la grande tradition de ce qu'on appelle les power ballades. Ça va devenir des titres absolument incontournables chez les groupes de hard rock et de heavy metal dans les années 80. Tous les groupes de hard vont avoir leur power ballade dans tous les grands albums qui vont sortir à cette époque-là. Il faut dire que les radios et mais aussi la toute jeune chaîne musicale MTV sont toutes les deux friandes hein, de ces tubes en puissance qui sont capables de fédérer un public bien plus large que les fans habituels de metal, enfin de hard rock plutôt on dira à l'époque, et donc ces power ballades elles vont faire les belles heures des charts, surtout dans les années 80, mais aussi encore un peu quand même dans les années 90. Concernant Poison du coup, ça va pas rater, hein. La chanson ça devient vite un hit aux États-Unis et puis au Royaume-Uni où elle va se classer parmi les premières places du Billboard et du UK Single Chart. Poison va devenir un des morceaux les plus connus d'Alice Cooper, avec son mythique School's Out, qui lui est beaucoup plus vieux puisqu'il est sorti au début des années 70. Alors bien évidemment, la sortie du single Poison, elle a été accompagnée d'un clip vidéo, et même de deux clips vidéo, puisque le premier va rapidement être censuré à cause d'une histoire de string et de seins nus. Tu m'étonnes que à cette époque-là, le PMRC avait dû pas louper Alice Cooper sur ce coup-là. J'ai pas réussi à le retrouver en fait, le clip original. Si vous arrivez à le trouver sur internet, allez regarder, parce que moi j'ai trouvé que la version officielle qui tournait à l'époque à la télévision. Bon. Sur ces histoires de string, je pense que je vous en ai dit assez sur l'histoire de la chanson Poison. Il est désormais grand temps de la découvrir revue et corrigée donc à la sauce lyrique symphonique par Tara Turunen. Donc cette fois, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, puisque je compte bien être derrière ce micro. On va se retrouver donc pour une nouvelle sélection de nouvelles aventures métal. Il y aura peut-être même une interview si vous êtes sage. Enfin, pour vous dire la vérité, l'interview elle est déjà enregistrée puisqu'elle a été enregistrée durant le confinement avec des moyens très artisanaux, donc je vais essayer de vous monter ça pour la semaine prochaine parce que le groupe est vraiment terrible et ce serait vraiment dommage de pas écouter cette interview, donc ça ce sera la petite surprise pour la prochaine émission. En attendant, je vais vous souhaiter un bon week-end, à vendredi prochain. Salut à tous, voici Tara Turunen qui reprend Poison d'Alice Cooper.